Épître aux Romains, chapitre 16.
Lecture de la parole.
Or je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui, pour ma vie, ont exposé leur propre coup, auquel je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations, et l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en Christ. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Eustachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, approuvé en Christ. Saluez ceux de chez Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de chez Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, lesquels travaillent dans le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les assemblées du Christ vous saluent. Or je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise. Et éloignez-vous d'eux, car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples, car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages quant au bien et simples quant au mal. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sosipater, mes parents, vous saluent. Moi, Tertius, qui ai écrit la lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'assemblée, vous salue. Eraste, l'administrateur de la ville, et le frère Cartus, vous salue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant, et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi, au Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen.
Lecture de l'étude. La fin de l'activité publique de l'apôtre, comme l'Écriture nous le rapporte, est saisissante. Sous plus d'un rapport, elle ressemble à la fin du service de son Seigneur et Maître. Comme lui, Paul fut aussi livré par les Juifs à la puissance des païens. Abandonné de tous, il a suivi son chemin solitairement. Malgré ses efforts infatigables de jour et de nuit, l'œuvre lui donnait de plus en plus de soucis et l'ennemi paraissait triompher. Mais, malgré tout, Dieu exécutait ses conseils de grâce. Paul avait été un témoin auprès des Juifs et auprès des nations. Le grand conseil à Jérusalem, les sacrificateurs et le peuple, les gouverneurs et le roi, oui, même l'empereur à Rome devait entendre, de sa bouche, la puissante voix de la vérité. Maintenant, le témoin lui-même allait être retiré de la scène publique, et son activité devait cesser. En Orient, il n'avait plus de place. En Occident, il ne devait séjourner que comme prisonnier. Telles sont les voies de Dieu. L'œil pénétrant de l'aigle ne les comprend pas, mais la sagesse les ordonne et la foi les admire. Paul n'avait jamais été jusqu'alors à Rome, mais il y avait là, néanmoins, beaucoup de croyants qu'il connaissait et qui lui étaient chers. Des affectueuses salutations pour eux remplissent la première moitié du 16e chapitre. Il est admirable de voir comment le serviteur infatigable dans son activité se souvient de tout service d'amour accompli envers lui, personnellement ou dans l'œuvre du Seigneur, et comment il a, pour chacune des personnes qu'il salue, frère ou sœur, une mention particulière ou une reconnaissance qui devait être en bénédiction à ces personnes et les encourager. Combien beau est le lien de l'amour qui unit les cœurs de tous ceux qui aiment Jésus et qui sont à son service. L'amour ne connaît aucun égoïsme, aucune jalousie. Ils forment tous une famille. Ils marchent vers le même but, chacun reconnaissant avec affection tout le bien qui se trouve chez les autres. Parmi les personnes saluées par l'apôtre, il y en avait certainement quelques-unes qui avaient été employées par Dieu pour porter dans la grande capitale le précieux évangile de la grâce, peut-être des Juifs qui, pour leurs affaires ou pour d'autres motifs, étaient venus à Rome, ou aussi d'autres qui y avaient leur domicile et qui, dans leurs voyages en Grèce et en Palestine, avaient appris à connaître la vérité. L'Esprit de Dieu nous rappelle encore qu'on ne peut découvrir, dans la fondation du témoignage à Rome, aucune trace d'activité apostolique, ce qui est certes d'une profonde importance quant au développement des choses dans cette ville. La première personne que Paul nomme est une sœur, une servante ou diaconesse de l'assemblée de Sancré, l'un des trois ports de Corinthe que nous connaissons par Acte 18, verset 18.
Et Paul, ayant demeuré là encore assez longtemps, prit congé des frères et mit à la voile pour la Syrie. Et avec lui Priscilla et Aquila, après qu'il se fût fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu.
Cette sœur, appelée Phoebé, avait évidemment rempli un service particulier parmi les saints à Sancré, et avait été en aide à beaucoup de saints et à l'apôtre lui-même. Il y a partout et en tout temps des services qui peuvent être exercés mieux et d'une manière plus convenable par des sœurs que par des frères. Phoebé avait été sans doute une sœur occupée à ses services et reconnue comme telle dans l'assemblée de Sancré. Nous ne savons pas ce qui l'avait conduite à Rome, mais l'apôtre demande qu'on la reçoive dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et qu'on l'assiste dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin des saints. Verset 2. Dans le verset suivant, nous rencontrons deux noms connus, saluer Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui, pour ma vie, ont exposé leur propre cou, auquel je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations. Paul avait rencontré ce couple pieux d'abord à Corinthe, et comme ils avaient le même métier, faiseur de tentes, il avait élu domicile chez eux et travaillé avec eux. Nous apprenons d'eux que plus tard ils accueillirent Apollos dans leur maison et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, versets 2 et 26.
Un juif nommé Aquila, originaire du Pont, tout récemment venu d'Italie, ainsi que Priscilla, sa femme, parce que Claude avait commandé que tous les juifs sortissent de Rome. Il alla à eux. Verset 26. Et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue, et Aquila et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu.
En 1 Corinthiens 16, verset 19.
Les assemblées de l'Asie vous saluent, Aquila et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison, vous saluent affectueusement.
Nous les trouvons à Éphèse, voir 2 Timothée 4, 19.
Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore.
Ainsi, non seulement ils avaient le même métier que Paul, mais ils étaient aussi les compagnons d'œuvre de l'apôtre dans le Christ Jésus. Ils avaient exposé pour sa vie leur propre cou et avait ainsi mérité non seulement sa reconnaissance, mais aussi, vu qu'il était apôtre des nations, celle de toutes les assemblées des nations. Remarquons que le nom de la sœur ici, comme en Actes 18, verset 18, et en 2 Timothée 4, verset 19, précède celui de son mari. Nous pouvons bien en déduire que Prisca ou Priscilla s'était dévouée particulièrement pour Paul. En Actes 18, verset 2 et 26, et en 1 Corinthiens 16, verset 19, le nom du mari se trouve en premier lieu, et nous comprenons facilement pourquoi. Combien admirable est l'exactitude de la parole de Dieu. Encore une courte remarque sur l'expression « et l'assemblée qui se réunit dans leur maison » qui se trouve ici, et en 1 Corinthiens 16, verset 19.
« Les assemblées de l'Asie vous saluent, Aquila et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison. »
Voir aussi Colossiens 4, verset 15.
« Saluez les frères qui sont à Laodicée, Nymphas et l'assemblée qui se réunit dans sa maison. »
Et Philémon, verset 1 et 2.
Paul, prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée, à Philémon le bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, et à la sœur Aphi et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison.
Comme on le sait, dans ces premiers jours du christianisme, les chrétiens se réunissaient, par manque de grands locaux de réunion, ici et là dans les maisons. Il ne faut pas penser à une assemblée particulière qui se serait composée des membres d'une même famille. L'apôtre, au verset 5, nomme Épaïnette son bien-aimé. Cela indique évidemment que des liens particuliers d'affection existaient entre lui et celui qui était les prémices de l'Asie pour Christ. Paul embrassait tous les saints dans un même amour fraternel, mais Épaïnette avait été le premier fruit de son travail béni dans la province romaine d'Asie, et comme il avait été sans aucun doute manifesté fidèle depuis longtemps, il possédait l'affection particulière de son Père en Christ. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous, verset 6. Remarquons que dans la liste des salutations, bien des sœurs sont désignées comme travaillant ou ayant travaillé dans le Seigneur, verset 12. De Marie, il nous est dit qu'elle avait beaucoup travaillé pour les croyants de Rome qui le reconnaissaient. Saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en Christ, verset 7. Il est intéressant de voir comment l'amour s'est rappelé toutes les circonstances qui étaient propres à encourager les personnes nommées et en même temps à les rendre plus chères à leurs frères et sœurs. Dans les versets suivants, Paul nomme aussi Amplias, et Stachys, ses bien-aimés dans le Seigneur, Urbain, son compagnon d'œuvre en Christ, Apelles, approuvé en Christ, Hérodion, son parent. Il n'envoie qu'une salutation à ceux de chez Aristobule et de chez Narcisse qui étaient dans le Seigneur. L'amour n'oublie personne, mais il donne du discernement et de la sagesse dans le jugement. Combien plus varié encore sera plus tard le jugement rendu, par celui qui est en même temps amour et lumière. Puissions-nous tous désirer avec plus de zèle son approbation. Saluez Tryphène et Tryphose, lesquels travaillent dans le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur, verset 12. Nous avons déjà parlé plus haut de telles sœurs. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne, verset 13. Si Rufus est le même homme dont il est parlé en Marc 15, verset 21, ce que plus d'un commentateur suppose, nous pouvons bien dire que le Seigneur a richement récompensé le service involontaire que le père de Rufus a eu le privilège de lui rendre le jour de ses souffrances et de sa mort.
Et ils contraignent un certain homme, Simon, Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, venant des champs, de porter sa croix.
Nous pouvons aussi supposer comme probable que toute la maison de Simon le Cyrénéen s'est attachée fidèlement au Seigneur, puisque Paul nomme la mère de Rufus aussi sa mère, sans doute en souvenir de reconnaissance pour des témoignages d'affection et des soins, et désigne ce Rufus comme l'élu dans le Seigneur. Tous les sanctifiés en Christ sont élus dans le Seigneur, mais Rufus s'est montré particulièrement digne de cette désignation. L'apôtre, après avoir, dans les deux versets suivants, cité plusieurs noms sans mention particulière, termine le paragraphe par ces mots « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». toutes les assemblées du Christ vous saluent. Nous trouvons la même invitation en 1 Corinthiens 16, verset 20.
Tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
2 Corinthiens 13, verset 12.
Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
Et 1 Thessaloniciens 5, verset 26.
Saluez tous les frères par un saint baiser.
Voir 1 Pierre 5, verset 14.
Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Paix soit à vous tous qui êtes en Christ.
Nous ne pensons pas que ce soit ici un commandement précis de l'apôtre, mais néanmoins nous pouvons supposer que cette salutation par un baiser était en usage parmi les premiers chrétiens. Si Dieu a pris soin que cette invitation nous soit conservée, il ne serait pas bon de la considérer avec indifférence. Il est certain que cette salutation renferme plus de chaleur et de cordialité qu'une simple poignée de main. C'était l'usage en Orient, et spécialement chez les Juifs, plus que chez nous, de se saluer par un baiser. Ici et dans les trois autres passages mentionnés, il est dit « un saint baiser ». Et nous ne devons pas oublier que le Saint-Esprit a donné sa sanction à ce mode de salutation. Cela ne veut pas dire que les croyants, chaque fois qu'ils se rencontrent, aient à se saluer par un baiser. Toutefois, l'amour devrait s'exprimer parfois de cette manière. Dans le paragraphe suivant, l'apôtre doit, pour le bien des croyants, s'occuper encore d'autres choses, entièrement opposées à celles qui précèdent. À côté de tant de biens que l'apôtre reconnaissait, il y avait aussi à Rome des sujets d'affliction. Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute, par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux, verset 17. On peut déduire de ces paroles qu'en ce temps déjà, il s'élevait dans l'assemblée de Rome des hommes qui, dans le sentiment de leur propre importance, et avec le désir, bien connu aussi de nos jours, d'apporter quelque chose de nouveau, ne s'en tenaient pas à la simple doctrine qui leur avait été enseignée, mais enseignaient de fausses doctrines pour attirer les disciples après eux. L'attrait de la nouveauté est grand, en particulier pour les âmes faibles et simples, et si ceux qui annoncent de nouvelles doctrines, comme c'est fréquemment le cas, le font par un beau langage et de douces paroles, ils réussissent facilement à séduire les cœurs des simples, verset 18. On suit les séducteurs, on se rassemble autour d'eux, on déploie une grande ardeur pour eux, puis les divisions et les occasions de chute en sont les conséquences inévitables. L'apôtre exhorte les frères à avoir l'œil sur de tels gens et à se détourner d'eux. L'apôtre Jean, plus tard, engage les croyants à ne pas recevoir dans leur maison et même à ne pas saluer tous ceux qui les menaient en avant et ne demeuraient pas dans la doctrine du Christ, car quiconque les saluait participait à leurs mauvaises œuvres. De tels hommes ne sont pas des serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont à cœur le bien du troupeau, mais ils servent leur propre ventre. Ils pensent avant toute chose à leur propre personne et à leurs intérêts. Ce jugement de l'esprit sur eux est très sérieux ici et dans d'autres passages. Il n'y a qu'un seul moyen de se préserver et de se protéger contre leur influence, c'est de nous en tenir à la doctrine que nous avons apprise, la parole de la vérité. Voir aussi Actes 20, verset 32.
Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés.
De même que la dame élue et Gaius le bien-aimé, deuxième et troisième épître de Jean, furent exhortés à éprouver la doctrine qui leur était enseignée, de même aussi ici nous trouvons une exhortation à se détourner avec énergie de ceux qui n'enseignaient plus la vérité telle qu'elle avait été reçue autrefois. Il n'y a pas d'autre chemin, et l'apôtre compte sur l'obéissance des croyants romains, qui étaient venus à la connaissance de tous et qui réjouissaient son cœur. En même temps, il les exhorte à être sages quant au bien et simples quant au mal, verset 19. Les dernières paroles sont particulièrement dignes de notre attention. Les gens du monde sont occupés du mal, cherchent à se garder de la tromperie et de la ruse des autres. Il ne doit pas en être ainsi du croyant, qui connaît la sagesse d'en haut, dont il est dit qu'elle est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, Jacques 3, verset 17. Il n'a pas à apprendre à connaître les différentes nuances du mal. Il est simple quant au mal, un petit enfant pour la malice, mais sage quant au bien. 1 Corinthiens 14, verset 20.
Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez de petits enfants. Mais dans vos entendements, soyez des hommes faits.
Occupés du bien, écoutant la voix du bon berger et les enseignements de l'Esprit divin, il suit tranquillement le chemin dans lequel son Seigneur l'a précédé, le sentier de sainte séparation, de bonté et de sagesse divine. Il connaît ce sentier et n'a pas besoin d'en connaître d'autres. Il sait bien qu'il se trouve encore sur la scène du péché, où Satan règne et où le mal triomphe si souvent. Mais il sait aussi que la puissance de Satan a été brisée à la croix, et il apprend avec allégresse que le Dieu de paix, qui est fidèle à toujours, brisera Satan sous nos pieds. Il est dit « Bientôt, entends-le mon âme et réjouis-toi. Si Dieu dans sa grâce a tardé jusqu'à aujourd'hui à accomplir le jugement, le juge n'en est pas moins à la porte. Ton Sauveur vient bientôt, et jusqu'à ce moment-là, la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ sera avec toi tous les jours. » Verset 20, ne l'oublie pas. Dans le verset suivant, nous trouvons les salutations de Timothée, le compagnon d'œuvre de l'apôtre, et celles de trois de ses parents, dont les noms nous sont à peine connus, et qui étaient peut-être aussi inconnus aux destinataires de l'Épître. Toutefois, la foi à l'Évangile unit les cœurs et produit de la sympathie des uns pour les autres, même lorsque l'on ne s'est jamais vu. La salutation du verset 22 nous rappelle le fait que Paul n'a écrit de sa main aucune de ses épîtres, à l'exception de celle aux Galates. Il les dictait à un autre. Ici, c'est à un frère nommé Tertius. Toutefois, l'apôtre signait toutes ses épîtres pour en sceller l'important contenu. 1 Corinthiens 16, verset 21.
La salutation de la propre main de moi, Paul.
Galates 6, verset 11.
Voyez quelle longue lettre je vous ai écrite de ma propre main.
De Thessaloniciens 3, verset 17.
La salutation de la propre main de moi, Paul, ce qui est le signe dans chaque lettre, ainsi j'écris.
Ensuite viennent des salutations courtes, mais pleines d'importance malgré leur brièveté, de Gaius, l'hôte de l'assemblée de Corinthe, ainsi que de l'apôtre lui-même, celle d'Éraste, l'administrateur de la ville, et finalement du frère Quartus, probablement un homme simple et modeste, dont le cœur était rempli d'amour pour ses frères qui se trouvaient au loin, et qui désiraient aussi exprimer son amour. Ensuite, l'apôtre termine son épître par le vœu si bien connu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Les trois derniers versets forment en une certaine mesure un supplément d'une extrême importance. Comme un autre écrivain le dit, l'apôtre ne peut pas terminer cette épître, dans laquelle il développe les plus simples éléments de l'Évangile dans leurs résultats pratiques en relation avec les diverses économies de Dieu et les devoirs qui découlent de la réception de la bonne nouvelle. Il ne peut pas la terminer sans relier à ces choses le mystère de Dieu qu'il a révélé dans quelques-unes de ses dernières épîtres. Nous ne trouvons pas dans cette épître, pour m'exprimer brièvement, le côté céleste de la vérité, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec Christ, le Fils de l'homme glorifié à la droite de Dieu, la tête de son corps, de l'assemblée, en qui Dieu veut réunir toutes choses. Cette épître a un autre but. Elle montre comment l'individu peut se tenir devant Dieu dans une heureuse liberté. Le fait que nous formons tous un seul corps en Christ, ainsi que les privilèges de ce corps, de l'assemblée, sont très brièvement mentionnés, mais ils ne sont pas traités en détail. À cet égard aussi, nous pouvons dire « Il y a un temps pour tout ». Le moment devait venir où l'administrateur des mystères de Dieu devait communiquer ce mystère aux croyants d'Éphèse et de Colosse, en rapport avec toute la plénitude du Christ, afin qu'il nous parvienne par les Écritures. L'état spirituel de ces deux assemblées permettait de les élever à de telles hauteurs, tandis que l'assemblée de Rome avait besoin d'être affermie dans les fondements du christianisme, dans les résultats de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu pour l'homme pécheur et perdu. Nous pouvons accepter avec reconnaissance tous ces dons de Dieu et admirer avec quelle sagesse et quelle grâce ces dons nous sont présentés. Le cœur de l'apôtre était rempli de ce qu'il nomme son évangile. Ce mystère était sans cesse dans toute sa fraîcheur dans son âme. Et il ne peut maintenant faire autrement que de s'en occuper, ne fût-ce qu'un moment. Ce mystère, comme il le dit, à l'égard duquel le silence avait été gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant, et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi, versets 25 et 26. L'Esprit de Dieu avait gardé dans les siècles précédents le silence sur ces choses. Les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient, il est vrai, parlé auparavant des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Mais les pensées de Dieu sur Christ, sur l'Assemblée, n'avaient jamais été révélées. Elles ne furent manifestées que par les écrits prophétiques du Nouveau Testament. Quel caractère important cette déclaration donne aux épîtres de l'apôtre. Ces hommes n'étaient pas seulement des envoyés de Dieu, mais aussi des prophètes. Ils posèrent le fondement sur lequel nous avons été édifiés. Éphésiens 2, verset 20.
Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse, Pierre Ducoing.
Il ne pouvait être dans les vues de Dieu de révéler le mystère de Christ et de l'Assemblée pendant l'économie de la loi. Après l'œuvre de Christ accomplie à la croix et sa glorification à la droite de la majesté dans les cieux, toutes les conditions voulues étaient remplies, et c'est alors seulement que ce mystère, selon le commandement du Dieu éternel, fut manifesté et donné à connaître par des écrits prophétiques à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. Les voies temporelles de Dieu étaient en rapport avec Israël et la terre. Les pensées éternelles, en rapport avec le mystère, sont maintenant données à connaître à toutes les nations, et notre affaire, ou plutôt notre glorieux privilège, est de les recevoir avec une foi simple et de les contempler avec admiration. Ô ce Dieu seul sage, combien sont profondes ses pensées, ses voies dignes d'admiration et ses actes insondables. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Nous avons pu contempler les profondeurs des richesses, ainsi que de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Cela a réchauffé et élargi nos cœurs, et nous a montré combien petites sont notre connaissance et notre intelligence. Et cela a aussi éveillé en nous le désir de ne plus connaître seulement en partie, mais parfaitement, non plus par la foi, mais par la vue. Que nous reste-t-il d'autre à faire en terminant ? Entonnons de nos cœurs avec le grand apôtre des nations la louange. Or, à celui qui est puissant pour nous, vous, affermir, au Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen.